Biodiversité on Air, un magazine proposé par la Corlab, la coordination des radios locales associatives de Bretagne, avec le soutien de l'Office français de la biodiversité.
Bonjour à toutes et à tous. Comment protéger les poissons migrateurs en Bretagne? De nombreuses espèces font chaque année de grands voyages vers nos rivières, mais depuis plusieurs années, elles sont en déclin. Comment l'expliquer? Réponse dans quelques minutes avec Gaëlle Leprévost, directrice de l'association Bretagne Grands Migrateurs. Mais avant, direction Quimperlé, où nous avons suivi sur le terrain une équipe de la police de l'environnement de l'Office français de la biodiversité à la rencontre des pêcheurs. C'est un sujet signé Radio Boa, votre radio régionale associative en Bretagne.
Un mode de pêche réduit, hein, ça va être tout leurre et appât. Sauf crevettes, c'est bon pour vous? Les gars, tout leurre et appât sauf crevettes.
Okay.
Donc Stéphane Prunet, je suis inspecteur de l'environnement au service départemental du Finistère de l'Office français de la biodiversité. Je suis accompagné de mes deux collègues qui nous soutiennent et qui font partie de la brigade mobile d'intervention Bretagne, basée à Vannes. Et là, ils viennent en soutien de nous pour la problématique de contrôle de la pêche récréative du saumon atlantique et de la truite de mer sur le département.
Et là, on se trouve où, du coup?
Du coup, là, on est à Quimperlé, sur la rive droite de en Basseville, sur la rive droite de la Laïta. Et là, nous allons passer à la confluence de l'Isole, qui est en face de nous, là, et de l'Ailé, qui est de l'autre côté.
On vous a entendu donner vos consignes à l'instant, s'il fallait les traduire pour tout à chacun.
En résumé, pour pêcher, pour qu'un pêcheur en eau douce puisse pratiquer sa passion de la capture du saumon atlantique, il faut qu'il ait un permis spécial, avec un timbre spécial, en plus du permis de pêche classique, donc ce qu'on appelle la taxe saumon ou la taxe migrateur. Et de plus, il doit être porteur d'un carnet nominatif de pêche et d'une bague à apposer sur le saumon s'il est capturé, dès sa capture et avant tout transport. S'il pêche le saumon et qu'il n'a pas sa bague ou son carnet nominatif de pêche, il est en infraction. De même, s'il pêche un saumon, qu'il le transporte et qu'il n'a pas mis la bague ou qu'il n'a pas déclaré sur son carnet de déclaration, il est également en infraction. C'est assez sévère, mais pour pouvoir gérer les stocks et les quotas de cette espèce qui est quand même aujourd'hui menacée, elle est sur le livre rouge des espèces menacées en France, il faut un petit peu de contraintes pour pouvoir gérer et suivre les stocks. Et on va aussi s'assurer qu'il n'y a pas de pêche illégale du saumon atlantique par des personnes indélicates qui n'auraient ni permis, ni bague, ni carnet nominatif, et qui en plus pêcheraient le saumon avec un mode de pêche complètement illégal qui s'appelle le grappinage. Le grappinage, c'est attraper le saumon une fois qu'on l'a repéré avec des lunettes polarisantes, et puis à l'aide d'une canne de moulinet et puis d'un grappin lesté, lui planter le grappin soit dans le ventre, soit dans le dos, et puis le sortir en force, et puis partir en courant avec, hein, en gros. Si vous avez l'image, c'est un peu ça. Alors, les poissons migrateurs, ils sont en déclin. En tout cas, c'est des espèces qui sont menacées parce que, d'abord, c'est des espèces qui, pour faire leur cycle biologique, ont besoin de plusieurs milieux. En l'occurrence, pour ce qui nous concerne, l'eau douce et l'eau de mer. Et ils ont besoin de franchir certains milieux, ce qui est difficile aussi parce qu'il y a des ouvrages, par exemple sur les cours d'eau, qui sont parfois difficiles à franchir. Il y a aussi les changements globaux, les changements climatiques, ce que moi j'appelle les changements globaux, qui font que par exemple le saumon qui va en mer pour se nourrir, pour grossir et se développer, c'est avec les changements de courant, les changements de masse d'eau, les changements de température, peuvent être désorganisés et peuvent être désorientés, peuvent subir une prédation accrue par des animaux marins. Et voilà. Et c'est un ensemble de paramètres qui fait que ces espèces-là sont menacées. On arrive au niveau de l'ouvrage et du moulin dégoré. Voilà, donc il y a avec une passe à poissons rustiques qu'on voit en face là. Et donc les migrateurs, ils arrivent face à cet ouvrage et puis ils le franchissent plus ou moins bien. Et puis ils accèdent à l'amont et puis ils vont continuer à monter, particulièrement les saumons. Et puis puisque l'objectif du saumon à monter, c'est d'aller se reproduire un petit peu ou beaucoup plus haut sur la rivière à partir de novembre-décembre. Donc voilà, donc les saumons, une fois qu'ils ont franchi les quelques ouvrages sur les laits en l'occurrence, ils vont se tenir tranquilles en haut de la rivière et puis arriver à la maturation sexuelle, ils vont frayer novembre-décembre. Et puis, contrairement à d'autres saumons, le saumon atlantique, il ne meurt pas après la fraie. Il redescend. Donc il redescend pour refaire un autre cycle. Ça, c'est pour les parents. Les œufs qui ont été déposés en novembre-décembre, ils vont éclore. Ça va faire des petits saumons qu'on appelle tacons. Et puis ces tacons vont grossir légèrement. Et quand ils vont devenir smolt, c'est-à-dire qu'ils vont être physiologiquement équipés pour repartir en mer, ils vont redescendre en mer et ils vont aller grossir et se développer en mer. Et puis quand ils seront restés un ou deux hivers en mer à grossir, à bien manger, eh bien, ils vont à nouveau remonter. Alors peut-être qu'ils croiseront leurs parents, pour ceux qui avaient fait la reproduction de l'hiver ou de deux hivers auparavant. Et voilà, le cycle, c'est ce cycle-là pour le saumon atlantique.
En tout cas, Stéphane, à cet endroit, pas grand monde aujourd'hui.
Alors, à cet endroit, pas grand monde, mais ça confirme les informations qu'on a depuis le début de la saison, c'est-à-dire peu de remontées de saumon atlantique, peu de remontées et pour l'instant, peut-être des remontées tardives. Donc on va continuer d'être vigilant dans tous les cas. Il peut s'expliquer par les changements globaux, hydroclimatiques, de courant, de vent, etc. Et puis il s'explique aussi par les problématiques que j'évoquais de prédation en mer. C'est une ressource qui est extrêmement fragile. Donc peut-être qu'un seul paramètre qu'on évoque peut dérégler le cycle et puis peut perturber les stocks. Alose morte, post-reproduction. On la voit bien, elle est pliée en deux là. Elle est. Tu vas voir, approche-toi. Donc encore un poisson migrateur. L'alose. Et donc l'alose, une fois qu'elle s'est reproduite, par contre, elle meurt. Toutes les cohortes d'alose sont quasiment montées en repro sur les rivières finistériennes. Et elles se sont reproduites, ces aloses. Et donc il n'est pas surprenant en ce début du mois de juillet de trouver des cadavres en fait. Donc
c'est un cycle normal.
Vous en voyez un petit peu monter,
ouais,
ou pas?
Ouais, j'ai pêché sur un ce matin là, mais il mordait pas.
D'accord.
Ouais.
D'accord. Et vous pêchez à quoi? Café, paquet de verre?
Ouvert.
Ah ouais, d'accord. Vous avez votre carnet de déclaration sur vous, s'il vous plaît?
Ouais.
Alors,
je vais te sortir, c'est juste pour qu'on voit la bague.
Ouais.
La bague où est marqué l'espèce avec un numéro. Et voilà, la personne doit prélever aussi des écailles pour le...
Prélèvement d'écailles, oui.
Ouais, pour l'état de santé, pour que ça soit analysé, que
qu'on
connaisse l'âge, l'état de santé de l'animal et tout ce qui est relatif à sa biologie.
Et voilà le carnet de nominatif de déclaration de capture, le nom du pêcheur saumon, la date de capture, le numéro de la bague et la rivière, le département et la longueur du poisson. 71 cm, vous voyez, le 24 avril. Parfait. Et là, on va voir des belles truites.
Ouais.
Prise 30, en photo par le monsieur. Ah ouais, joli poisson, hein.
Ah, t'es tout blanc, ouais.
Il y avait des poux.
Ah, il est plein de poux de mer.
Ah, plein de poux de mer, ouais. D'accord. Ouais, magnifique.
Ouais.
Il est fier, le gars. Donc, espérons que les castillons montent. Peut-être avec un peu de retard.
Mais... Quelques-uns, on voit 3 ou 4 qui se baladent, mais bon, pareil, ils restent tournés, là, puis ils montent même pas, ils doivent redescendre.
Oui, mais il faudrait le... Parce que ça n'a pas suffi, la flotte, là.
Il n'y a pas assez.
Ok, messieurs.
Ben voilà.
Vous êtes pêcheur depuis combien de temps?
Depuis l'âge de 8 ans, je pêchais avec mon père, 7-8 ans. J'ai commencé la truite et j'ai commencé le saumon, j'avais 16 ans.
Ah, donc ça fait un petit paquet de temps.
Bon, je suis né au pays, donc j'en ai vu des saumons, hein, mes parents, mon père, tout ça. Ah ouais, il y en avait à l'époque.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup moins?
Beaucoup moins, carrément. Ah ouais, ça a baissé, c'est dingue. À l'époque, un jour d'ouverture au Gouraille, il y en avait 6 ou 7 dans la cabane, on avait une cabane où on les mettait. Et cette année, il y en a eu 3 de prix, quoi, depuis l'ouverture, 3 saumons. Alors que d'habitude, c'était 3 par jour, 3-4 par jour.
Comment vous expliquez ça?
Pollution, peut-être, ou peut-être les élevages qu'ils font en mer. Les élevages qu'ils font en Norvège, donc ils sont dans les parcs, je pense. Et puis, ils chopent la maladie, ils doivent transmettre la maladie aux saumons sauvages, quoi, je pense. Et puis, bon, il y a les filets aussi, hein. C'est sûr, ça n'arrange pas non plus. Ouais.
On espère toujours avoir des remontées, enfin, C'est dans notre tête qu'on dit peut-être que l'année qui va venir sera meilleure, mais là, ça fait quand même 5 ans qu'on est sur un gros déclin. Quoi. Ouais.
Ou des remontées décalées de Castillon, on y croit.
Décalées.
Ouais. Décalées.
Là, et depuis les quelques années, ils arrivent à partir du 15-20 juillet.
Ouais.
Et avant, on était vers le 10 juin.
Ouais.
Donc, ouais. Les printemps, c'est décalé. On a eu des belles remontées en juin aussi. Et comme nous, on ferme en juin, tant mieux. C'est les géniteurs qui sont passés. Mmh. Donc,
vous expliquez ça comment, de votre côté ?
On ne maîtrise pas la phase marine. On maîtrise un petit peu la phase eau douce ici. Globalement, la qualité de l'eau s'est améliorée. On a quand même des belles remontées. On a travaillé sur les barrages pour que les poissons aient libre, c'est la libre circulation sur les frayères. On a des poissons sur les frayères, mais c'est la phase marine. Donc il y a le réchauffement climatique aussi qui fait que peut-être il y a des espèces fourrages qui disparaissent. Mais il y a certainement la casse en mer avec les bateaux-usines. Parce que là, c'est mondial cette année. Il n'y en a pas en Écosse, il n'y en a pas en Irlande. Apparemment, Norvège, c'est pas très bon. Et les rivières bretonnes, c'est pas ça du tout.
Vous constatez vraiment, en tout cas, un déclin certain
Depuis les années 80, on a un fort déclin, d'année en année. On a des pics certaines années, on est très content, on a des belles remontées, des belles captures. Mais là, depuis 3 ans, là, on est au fond du trou.
Vous travaillez de façon un peu main dans la main avec la police de l'environnement, avec l'OFB.
Vous avez vu qu'on se connaît bien, ouais, bien sûr qu'on travaille main dans la main. On a besoin d'eux.
Ah ouais.
Et ils ont un petit peu besoin de vous parce qu'ils me disent de vous que vous êtes leurs yeux.
Oui, peut-être. Non, c'est des amis en fait. Hein. Nous, on a nos gardes particuliers qui font un énorme boulot, qui surveillent, qui sont là pour se montrer aussi. Et dès qu'on a quelque chose qui n'est pas très clair, on fait appel à la police de l'eau, l'OFB. Et quand ils interviennent chez nous, en général, c'est sûr. C'est du sûr.
À l'instant, ce reportage tourné en juillet 2023 à Quimperlé avec le service départemental du Finistère de l'Office français de la biodiversité. Alors pour aller plus loin sur ce sujet des poissons migrateurs, nous sommes en liaison avec Gaëlle Leprévost à Rennes dans les studios de Canal B. Gaëlle Leprévost, directrice de Bretagne Grand Migrateur. Gaëlle Leprévost, bonjour.
Bonjour.
Alors, première chose, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est Bretagne Grand Migrateur, également ses missions principales ?
Alors, Bretagne Grand Migrateur est une association dont les 4 membres fondatrices, en fait, sont les 4 fédérations pour la pêche et la protection des milieux aquatiques de Bretagne. On travaille pour la préservation, la restauration des populations de poissons migrateurs sur les cours d'eau bretons. On a notamment en charge, en fait, la coordination des actions qui sont menées en faveur des poissons migrateurs en Bretagne. Et puis, on a mis en place en 2013 l'Observatoire des poissons migrateurs, qui est une plateforme, en fait, de centralisation de l'information au niveau régional et puis de diffusion de l'information.
Alors Gaëlle Leprévost, comment vous réagissez au reportage que l'on vient d'entendre, qui a été tourné à Quimperlé là, sur la Laïta, l'Élé et l'Isole, avec les services de l'Office français de la biodiversité, et puis on a entendu également quelques pêcheurs réagir dans ce reportage.
Ouais, alors c'était un reportage très intéressant hein, qui révèle vraiment ce qui se passe aujourd'hui sur nos rivières bretonnes. Alors effectivement, les populations de saumon sont plutôt dans un état critique hein, ces 30 dernières années. Hein, comme le disait un pêcheur, les effectifs de saumon ont fortement chuté depuis les années 80. Et la situation, alors après avec des populations, enfin justement les indicateurs qu'on collecte chaque année nous permettent de donner une situation qui est relativement stable hein, sur les cours d'eau bretonnes. Mais c'est vrai que là, sur les années 2022-2023, on a des remontées de géniteurs qui sont vraiment très très faibles. Et voilà, la population de saumon en Bretagne reste toujours critique. C'est d'ailleurs une des espèces hein, qui est classée en liste rouge hein, de l'UICN. Ouais. Et alors juste pour préciser aussi quand même hein, que la région Bretagne, c'est une des seules régions de France où on a encore des populations de saumon qui fonctionnent plutôt bien. Donc je dis plutôt bien puisque effectivement on a des années où les tendances sont faibles, hein, donc on reste dans une population fragile. Juste pour vous donner un ordre de grandeur hein, sur les cours d'eau bretons, donc il y a des études, hein, des études de modélisation qui ont été réalisées à partir des données qu'on collecte hein, depuis une trentaine d'années sur les rivières bretonnes. C'est à peu près 2500 saumons de printemps, 2600 castillons qui colonisent chaque année les rivières bretonnes. Donc, on est quand même sur des chiffres assez importants, notamment si on compare ça à d'autres grands fleuves français où les populations de saumons sont vraiment en déclin et sont encore plus fragilisées que sur nos rivières bretonnes.
Oui, on parlera dans un instant des causes de ce déclin, mais on l'a entendu à la fin de ce reportage, et tout au long de ce reportage, il y a quand même une forte entente et une bonne collaboration entre les pêcheurs, leur fédération et la police de l'environnement de l'Office français de la biodiversité. Est-ce que cela se passe aussi bien sur toutes les rivières bretonnes, Gaëlle Leprévost ?
C'est vrai que moi, à ma connaissance, je n'ai pas forcément soulevé de situation qui était vraiment conflictuelle entre les pêcheurs et la police de l'environnement. Peut-être excepté lors d'actes de braconnage ou des conflits entre pêcheurs et entre l'Office français de la biodiversité peuvent être constatés, notamment avec des pêcheurs qui sont hors la loi. Après, de manière générale, clairement, on a vraiment une bonne entente entre les pêcheurs et les services de la police de l'environnement. Et les pêcheurs ont vraiment un rôle d'alerte auprès des services de contrôle. Les pêcheurs, eux, ils sont au chevet des rivières, en fait. Ils sont au quotidien sur la rivière et ils ont vraiment un rôle d'alerte auprès des services de contrôle qui sont indispensables, en fait, pour la surveillance, la protection des milieux aquatiques et des espèces qui y vivent. Donc voilà, ça c'est vrai que le reportage montrait assez bien cette bonne entente et c'est dans la majorité des cas le cas. Effectivement.
Ouais. Vous parliez de braconnage. Est-ce qu'il y a, vous recensez beaucoup de problèmes de braconnage dans notre région, en Bretagne ? Est-ce que c'est encore très en vogue ?
Effectivement, sur quelques rivières, on a encore des sites où le saumon est braconné. Après, les services de la police de l'environnement font des contrôles très réguliers. Il y a eu de gros efforts de fait par l'État pour justement limiter ces actes de braconnage. Et puis, c'est des choses qu'on observe encore, mais il y a quand même une surveillance accrue sur cette espèce pour la préserver.
On comprend aussi assez clairement dans le reportage que l'espèce de poisson grand migrateur en question, le saumon atlantique, est en fort déclin, on l'a dit tout à l'heure, mais aussi remonte de façon décalée en rivière par rapport à ces périodes traditionnelles. Comment vous, à Bretagne, grand migrateur, vous expliquez ce double phénomène ?
Ouais, alors en fait, les changements climatiques qui sont en cours, ils ont des conséquences fortes sur les changements de la stratégie du saumon. En fait, lorsque le milieu change, la dynamique des populations, la dynamique des espèces va changer. Donc les changements climatiques, ils ont des conséquences directes sur la croissance des saumons en mer notamment. Il y a différentes études qui l'ont montré. Il y a des suivis qui montrent une diminution du poids, de la taille des saumons qui remontent les cours d'eau bretons. Et tout ça va avoir un impact derrière sur la fécondité des femelles, va avoir un impact sur la taille de maturation de l'espèce, va avoir un impact et du coup également sur les périodes de migration. Donc tous ces décalages qu'on voit, tous ces changements de stratégie qu'on voit aujourd'hui sur le saumon sont vraiment liés à des changements qui sont de grande ampleur en fait, et le changement climatique en est certainement un des facteurs. Ouais.
Changement climatique peut-être une des causes majeures. Est-ce qu'il y a d'autres causes qui peuvent expliquer aussi ce déclin ou ces perturbations? Je pense notamment peut-être aux pollutions des rivières, aux espèces invasives qui les colonisent, aussi aux modifications par l'homme des cours d'eau. Est-ce qu'il y a effectivement aussi ces causes-là qui peuvent rentrer en jeu pour expliquer ces phénomènes?
Oui, tout à fait. En fait, le saumon est un poisson migrateur, donc il a besoin à la fois de vivre en mer et en rivière pour établir l'ensemble de son cycle biologique. Du coup, il est soumis à la fois aux facteurs du milieu marin et à la fois aux facteurs du milieu, de l'eau douce. Donc ça va... il est soumis à plusieurs pressions de ces deux milieux et c'est pour cette raison que c'est des populations qui sont d'autant plus fragiles. Donc après, l'impact de la pêche en eau douce, il a été jugé négligeable. Il y a une étude récente qui a été réalisée sur le sujet. Alors par rapport à l'effort de pêche actuel, effectivement, l'impact est assez négligeable. Les mortalités des jeunes saumons par les turbines, il est relativement faible en Bretagne, puisqu'en fait, la majorité des zones de production de jeunes saumons sont situés en aval des turbines. Et puis après, il y a d'autres facteurs qui interviennent. La pêche en mer, les pollutions, le braconnage, les obstacles à l'écoulement vont d'autant être des facteurs qui vont encore plus fragiliser les populations. Et c'est vrai que les populations de saumon ont notamment diminué suite à la construction de barrages, hein, de grands barrages, notamment sur les grands fleuves français, où on a complètement en fait fermé des zones de reproduction et de production en, en saumon. Et en Bretagne, en fait, le fait que les débits ont tendance à diminuer, du coup, on va avoir un impact d'autant plus important des obstacles à l'écoulement qui vont en fait limiter, freiner la colonisation du saumon et le limiter pour l'atteinte des zones de frayère. Donc voilà, il est vraiment soumis à une multitude de facteurs qui font que l'espèce est vraiment fragile.
Alors, on parlait depuis le début de cet entretien du, spécifiquement du saumon atlantique en Bretagne. Est-ce que toutes les espèces de poissons grands migrateurs ont le même sort et sont au même niveau concernés par ce déclin et ces perturbations?
Oui, alors en fait, l'anguille européenne est classée en danger critique d'extinction. Hein. On a eu une diminution des arrivées de jeunes anguilles, hein, qu'on va appeler les civelles, de près de 95% sur une échelle de 30 ans. Donc, l'anguille européenne est classée en danger critique d'extinction de la même manière que l'ours polaire. La grande alose est classée en danger au niveau national. Et puis, bah, le saumon et la lamproie marine en Bretagne sont classés en tant que quasi menacé. Donc voilà, tous ces classements, hein, sont issus de travaux qui ont été menés à l'échelle nationale et en Bretagne en 2015. Depuis 2015, en fait, depuis qu'on a fait cette évaluation, on constate une diminution encore plus accrue des lamproies marines, mais également des aloses, des saumons. Et là, justement, on a un travail qui est prévu en 2024 pour revoir en fait ces classements, puisque la tendance des dernières années semble être encore plus critique en fait que la situation et le travail qu'on avait fait en 2015, qui se basait sur des données sur 10 ans en arrière. Et puis, ce qu'il faut noter quand même, c'est que ailleurs qu'en Bretagne, la situation est encore plus défavorable en fait pour ces espèces de poissons migrateurs. Donc la Bretagne, hein, c'est une des dernières régions de France où les populations de saumon se portent plutôt bien sur une échelle de 20 ans à peu près. Les effectifs d'alose et de lamproie marine sont dans des ordres de grandeur qui sont quand même relativement faibles, mais en fait on a quand même une population qui est bien présente, hein, et qui a pas atteint des effectifs à zéro, hein, comme en Garonne, Dordogne ou en Loire. Donc voilà. Et puis après, pour l'anguille, c'est une espèce européenne. Et là, l'état critique en fait est le même à l'échelle européenne, française et en Bretagne en fait.
Alors vous œuvrez au quotidien à Bretagne Grand Migrateur pour la protection de ces espèces. Pourquoi ces poissons migrateurs sont-ils si importants pour la biodiversité?
Alors en fait, c'est des espèces qui sont, on appelle ça, enfin notamment pour le saumon, des espèces parapluies, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des exigences en termes d'habitat notamment, et préserver ces espèces, c'est préserver l'ensemble des milieux, c'est préserver aussi l'ensemble des autres espèces piscicoles qui vont être présentes pour le cours d'eau. Donc c'est vraiment important du coup de travailler sur ces espèces parapluies, puisqu'en fait derrière, si on travaille sur ces espèces en termes de mesures de gestion, de mesures de restauration, c'est l'ensemble en fait du milieu qu'on va restaurer. Et puis après, bah voilà, ces espèces font partie de la biodiversité en général. On sait très bien que voilà, si on veut que demain nos enfants puissent encore voir ces espèces qui sont vraiment remarquables chez nous, voilà, il y a un enjeu fort à préserver ces espèces.
Oui, c'est notre responsabilité collective, en tout cas, de les protéger. Quelles sont les solutions, les plans d'action mis en œuvre aujourd'hui ou à envisager à l'avenir pour encore mieux protéger ces espèces?
Alors, pour c'est vrai que pour le saumon, ça fait déjà une quarantaine d'années, hein, qu'on travaille pour l'amélioration de la libre circulation de l'espèce, pour lui faciliter en fait l'accès à ces zones de frayère. Donc il y a de gros efforts qui ont été réalisés pour mettre en place des passes à poissons ou bien des abaissements ou des effacements d'ouvrages. Donc ça, c'est quelque chose, hein, sur lequel on travaille depuis déjà 30-40 ans. Et on travaille également maintenant sur des solutions plus adaptées pour la lamproie proies marines et les alos, qui sont des espèces non sauteuses, hein, qui vont être beaucoup plus exigeantes et avoir plus de difficultés du coup à franchir les obstacles. À côté de ça, il y a des mesures qui sont mises en place concernant la gestion de la pêche. Donc, le comité de gestion des poissons migrateurs met en place effectivement des mesures de gestion pour mieux encadrer, en fait, que ce soit la pêche en mer, la pêche en eau douce, à la fois pour les pêcheurs de loisirs et les pêcheurs professionnels. Voilà. Et puis après, il y a aussi de gros efforts qui sont faits par les syndicats, par les collectivités, pour restaurer les habitats qui doivent être propices à la reproduction et la production des poissons migrateurs. Donc, il y a vraiment différentes choses. Et puis après, il y a des programmes qui sont menés à l'échelle régionale. Il y a aussi des programmes nationaux, voire des programmes européens, qui imposent, en fait, et qui vont mettre en place des mesures de gestion pour pouvoir préserver et restaurer les populations.
Oui, vous parliez d'action régionale, d'action nationale, mais également internationale, parce que, par définition, les grands migrateurs voyagent très loin avant d'arriver dans nos rivières. Comment arrivez-vous à agir sur de telles échelles ?
Oui, alors c'est vrai que les actions qu'on va pouvoir mener au niveau régional, au niveau local, régional et voire national, ça va être, on va intervenir surtout sur le milieu eau douce. On maîtrise pas en fait tout ce qui se passe en mer. On maîtrise pas non plus la gestion de la pêche en mer en fait, hein, au niveau en tout cas local, régional ou voire national. Donc voilà, le niveau international là va être vraiment indispensable pour derrière mettre en place des mesures de gestion de la pêche. Sur ces espaces dont on n'a pas la maîtrise, en fait, à une plus petite échelle.
C'est un enjeu de protection, ces espèces migratrices qui sont assez prises en compte par les élus, les collectivités territoriales, l'État. Voilà, quels sont un petit peu les appuis que vous recevez pour effectivement cette protection et aussi peut-être les freins de financement qui peuvent surgir?
Ouais, alors l'État s'investit beaucoup hein, pour la restauration des populations de migrateurs. Il y a eu un décret hein, notamment qui a été signé pour mettre en place du coup des comités de gestion des poissons migrateurs au niveau régional ou à l'échelle des grands bassins hydrographiques. Et derrière, du coup, on va réfléchir hein, avec l'État, les collectivités, les pêcheurs hein, de professionnels et de loisirs pour mettre en place des mesures de préservation relativement fortes hein, pour préserver ces espèces. Donc les collectivités du coup elles sont impliquées plutôt au niveau local puisqu'elles elles sont sur le terrain en fait et elles vont discuter notamment avec elles vont travailler sur la rivière hein, pour restaurer les habitats et elles vont également travailler avec les propriétaires d'obstacles par exemple pour mettre en place peut-être des passes à poissons, des effacements de seuil, tout ça pour améliorer en fait les populations de poissons migrateurs à un échelon plus local. Et puis après on a une implication assez forte aussi des organismes de recherche qui nous permettent derrière de mettre en place aussi des outils d'aide à la décision qui vont nous permettre de mieux gérer les populations. Alors, j'ai évoqué tout à l'heure sur la pêche de loisirs, il y a eu tout un travail qui a été fait avec l'INRAE et puis l'OFB au niveau national pour mieux définir les quotas de pêche du saumon, puisque le saumon est encore une espèce pêchée par les pêcheurs de loisirs en eau douce. Mais il y a des quotas qui sont mis en place par rivière.
Gaëlle Leprévost, pour que nos auditeurs aillent plus loin dans la compréhension de ces enjeux de protection des poissons migrateurs, est-ce que vous pourriez peut-être nous indiquer quelques références utiles qui pourraient aller consulter
Ouais, alors tout simplement, moi j'invite les auditeurs à aller sur le site internet de l'Observatoire des poissons migrateurs. On met à disposition vraiment l'ensemble des informations, de tous les éléments en fait qui concernent les populations de poissons migrateurs en Bretagne, que ce soit des rapports d'études, des indicateurs, des données. On a fait un travail aussi pour mettre à disposition des couches géographiques avec les résultats des suivis. Et puis il y a également des informations sur la réglementation de la pêche. J'invite vraiment les auditeurs à aller sur ce site. Et puis justement, nous on est toujours preneurs aussi de critiques hein, pour améliorer et puis faciliter l'accès à toutes ces informations. Donc voilà, faut pas hésiter à nous contacter.
Gaëlle Leprévost, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur tous ces enjeux pour les poissons migrateurs. Je rappelle que vous êtes directrice de Bretagne Grand Migrateur, association agréée au titre de la protection de l'environnement dédiée à la gestion et à la restauration des grands migrateurs en Bretagne. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions en diffusion sur les 20 radios associatives locales en Bretagne de l'Accor Lab et sur Radio Boa, votre radio régionale. Également en podcast sur le site internet corlab.org. rubrique podcast, émission Biodiversité en air. À bientôt donc pour un nouveau numéro de notre magazine dédié aux actions en faveur de la biodiversité en Bretagne. Et d'ici là, prenez soin de vous et donc prenez soin de la planète.
C'était Biodiversité on Air, un magazine proposé par la Corlab, la coordination des radios locales associatives de Bretagne, avec le soutien de l'Office français de la biodiversité.